Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 14 juillet 2014. Bienvenue à ce débat qui porte sur le remplacement de l'opération Serval par l'opération Barkhane au Mali. Les axes de ce débat, le bilan de l'opération Serval, le mandat de la nouvelle opération Barkhane, la place et le rôle du Mali dans cette réorganisation de la France. Nos invités, Ousmane Cornio, expert des questions sécuritaires, professeur Rokia Sanogo du parti SADI, et nous aurons également au téléphone, si tout va bien, André Bourgeau, directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique, CNRS, de France et spécialiste du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique.
Studio Tamani.
Depuis hier, l'opération Barkhane remplace Serval au Mali. À la veille du 14 juillet, la France a acté officiellement la fin de l'opération Serval au Mali et son remplacement dans les prochains jours par Barkhane, une opération plus large et permanente de lutte contre le terrorisme au Sahel qui mobilisera 3000 militaires français. L'opération Barkhane, nom donné à une dune de sable en forme de croissant formée par l'effet de vent violent, sera mise en place dans les jours qui viennent. Un partenariat avec 5 pays de la bande sahélo-saharienne, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. L'opération bénéficiera de moyens considérables, 20 hélicoptères, 200 véhicules blindés, 10 avions de transport tactique et stratégique et 6 avions de chasse en plus des 3 drones pour le renseignement. Alors, la première étape de ce débat, le bilan de l'opération Serval. Ousmane Cornio, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de l'opération Serval au Mali?
Bon, merci beaucoup. Je crois que l'opération Serval, il y a très peu de commentaires à le faire dans la mesure où tout le monde sait par quoi ça a commencé. Ça a commencé par la libération de ma ville natale, Kouana. Donc moi, je ne peux que me réjouir. Et puis, elle s'est poursuivie, cette opération-là, par la libération des zones occupées. En appui sûrement avec l'armée malienne et puis d'autres forces armées. Donc pour moi, elle ne peut être que positive. Même si vers la fin, elle s'est terminée par des petits grincements des dents dans la mesure où on aurait souhaité que Serval aille là où elle n'a pas pu aller, surtout avec les événements du 21 mai.
Okay. Alors Rokia Sanogo, vous êtes du parti SADI. Comment voyez-vous aujourd'hui le bilan de l'opération Serval au Mali?
Merci. Je voulais remercier le studio Tamani pour m'avoir invité. Et j'aimerais intervenir comme président du mouvement populaire du 22 mars.
Un peu 22,
qui regroupe SADI, mais beaucoup d'autres organisations. Et qui, pas plus que la semaine dernière, a fait un point de presse où appelait à la mobilisation par rapport à se mobiliser pour résister contre... Et la situation que nous avons vécue. Et quand on doit parler de bilan de Serval, par rapport à notre position, pour nous, Serval a été une invention de la France. Serval, on a créé, nous avons dit en son temps, en janvier, que Kona a été créé pour permettre à la France de crier au péril djihadiste pour mobiliser la communauté internationale, pour permettre à la France de réintroduire MNLA à Kidal, pour combattre les communautés nationalistes djihadistes qu'ils appelaient en Sardine Moujaou, pour permettre à la France de faire ce que la France a fait à Kidal. Sans MNLA, la France ne pouvait pas occuper Kidal sans le Mali. Donc pour nous, nous avons dit non à l'opération Serval et toute la mise en œuvre de l'opération Serval nous a confirmé davantage qu'il ne fallait pas d'opération Serval pour le Mali parce que la France, avec Serval, a dit qu'il venait sauver le Mali, mais le résultat, la triste réalité, l'échec de Serval, c'est le 17 et 21 mai dernier.
Alors, la grande victoire de Serval, peut-être, peut-on dire que c'est le 10 janvier 2013, Rokia?
Non, c'est ce que j'ai dit.
Et s'il n'y avait
pas
Serval?
Je réaffirme que Conan a été inventé.
Donc, vous pensez que toute la guerre était une invention?
Je réaffirme qu'il n'y avait pas un péril djihadiste. Je réaffirme que s'il y avait des groupes armés qui ont pu se déplacer pour venir à Conan, on ne peut pas comprendre qu'avec tous les moyens que la France a, qu'avec tous les moyens que les États-Unis ont, et le contrôle qui était sur le nord du Mali, nous ne comprenons pas comment personne n'a rien vu jusqu'à avoir Conan.
Le bilan de Serval, nous avons en ligne professeur André Bourgeot, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique au CNRS de France. Professeur, dites-nous si aujourd'hui on peut tirer un bilan de l'opération Serval qui s'achève au Mali.
Oui, certainement, il y a un bilan, puisque maintenant l'opération Serval est terminée, et elle se transforme en opération Barkhane. Le bilan est le suivant, un peu la différence de ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'il était difficile de s'opposer à l'intervention de l'opération militaire Serval pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que cette intervention résulte d'une demande donc illégale émanant du président par intérim, le professeur Boutinda Traoré, qui sollicite l'intervention française. Et ensuite, ça repose aussi sur une légitimité, puisque ça résulte d'une décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc si vous conjuguez ces deux aspects formels, certes formels, je vois mal comment on aurait pu refuser. Le peuple malien n'aurait pas compris que l'armée française refuse d'intervenir pour empêcher la descente des groupes armés narco-djihadistes. C'est la première chose. Ça, c'est au niveau de la forme et de l'origine. Maintenant, au niveau du bilan, le bilan, quand même, est un peu contradictoire et contestable. Autant l'armée française a été reçue comme une armée de libération, tout au début, petit à petit, elle s'est transformée, elle a créé des conditions de manifestation d'opposition à la présence, pas la présence, mais au comportement des militaires français de Serval et de la MINUSMA. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que les groupes armés narco-djihadistes ont été provisoirement boutés à l'extérieur de Tombouctou, Gao, Kidal, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne se sont pas manifestés par la suite. Et on peut constater encore actuellement qu'il y a des formes de harcèlement émanant de ces groupes armés narco-djihadistes. Donc on ne peut pas dire que ça a été éradiqué. Si effectivement ça avait été éradiqué, on ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait encore la présence de 1000 d'un millier de militaires français sur le sol malien. Mais la chose qui est importante, c'est qu'on ne comprend pas, en tout cas on est en droit de se poser des questions sur le fait que le comportement de l'armée française et de la MINUSMA n'a pas été le même vis-à-vis du mouvement national de libération de la Zawad. J'observe, c'est un constat, c'est pas du tout un jugement de valeur ni une appréciation, mais j'observe que, pardon, avant l'intervention de Serval, le MNLN ne représentait plus rien. Il avait été bouté de Gao par les groupes armés, plus particulièrement par le Mujao. Il avait été obligé de se replier dans une petite région qui s'appelle Khalil, qui se situe à l'ouest de Tindiawaten, le Tindiawaten malien. Et que quelques semaines après, on constate, on observe, que le MNLA réinvestit Kidal, et on peut dire qu'il administre l'ensemble de la barre des Iforas. Tout ça au su et au vu de l'opération Serval et de la MINUSMA. En conséquence, on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, puisque pourquoi deux types de comportements? Ce comportement ne peut pas être à géométrie variable. Et on voit très bien que par la suite, bon, il y a eu des manifestations de mécontentement, accusant implicitement Serval de complicité, de connivence, quelque chose, le terme qu'on utilise, vis-à-vis du MNLA.
D'accord.
Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on renvoie maintenant aux conditions d'application de l'accord préliminaire de Ouagadougou du 18 juin 2013, on observe aussi que les groupes armés qui sont aussi dans des activités criminelles, telles que le MNLA, normalement, auraient dû faire l'objet de cantonnement. Le cantonnement n'a pas été fait pour ces groupes armés. Donc vous voyez, il y a un ensemble de situations, de faits observables, qui quand même permettent de s'interroger et sont générateurs un peu de suspicions sur les ambiguïtés, cette fois-ci, du comportement de Serval. Comme on le sait, tous les États défendent des intérêts. Donc le gouvernement français défend aussi ses propres intérêts.
D'accord. Nous verrons dans la deuxième partie les intérêts que la France peut prétendre à défendre ici au Mali. Merci beaucoup, professeur Bourgeot. Je rappelle que vous intervenez depuis Paris. Vous êtes directeur-chercheur au Centre national de recherche scientifique au CNRS de France. Alors, vous venez d'entendre professeur Rukia Sanogo tout à l'heure, Ousmane Cornio, et vous venez d'écouter également André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS de France. Au-delà de tout ce qui a été dit, la récupération des régions du Nord, on peut, par exemple, dans le bilan de Serval, on peut inscrire la lutte contre le terrorisme, les élections qui ont pu se tenir au mois de juillet dernier, le retour de l'administration dans les différentes régions du Nord, la destruction de munitions prises aux mains des djihadistes, la sécurisation des régions du Nord, la reconstruction des régions avec la construction de marchés. Est-ce qu'on peut détailler encore davantage ce bilan de Serval?
Oui, je crois que ce que chacun a dit, n'engage que soi, tout le monde était à Bamako, au Mali, quand l'opération Serval intervient à Kona. J'ai dit que je suis bien de Kona et l'opération m'a trouvé à Kona. Après cette opération, il y a 2 semaines, je viens de faire tout le nord du Mali. J'ai fait le nord de la région de Ségou, le nord de la région de Mopti, la région de Tombouctou et la région de Gao. Pour comparer dans le cadre d'une étude, la situation comparative avant et après. Bien, c'est-à-dire que chaque situation a des avantages et des inconvénients. Il faut reconnaître que sans l'intervention de Serval le 10 janvier, le Mali n'existerait plus. Qu'on le dise que ça a été fabriqué ou pas, ça n'engage que ceux qui le disent. Moi, je juge les choses sur les faits. Qu'ils aient créé ou pas, ce jour-là, s'il n'y avait pas eu cette intervention, le Mali n'existerait pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que la libération des régions du Nord a modifié complètement le positionnement des acteurs. Avant, les acteurs étaient groupés. Il était facile de les identifier et de les frapper.
Les acteurs, quand vous...
Les acteurs, c'est-à-dire, je parle
des groupes armés.
Les groupes armés. Ils étaient regroupés, ils étaient identifiés, ils étaient localisés, il était facile de les taper. Mais à partir de l'instant où ils sont dispersés et qu'ils ont adopté une forme de guérilla, ce n'est plus facile de les frapper. Il s'agit finalement d'adopter aussi une stratégie correspondante. Maintenant, quant à la position de Serval par rapport au groupe MNLA, je ne me fais pas l'avocat du diable. Moi, je considère que ces gens du MNLA sont des Maliens comme moi. Et je ne comprends pas qu'une force étrangère vienne au Mali pour aider une partie des Maliens à combattre une autre partie des Maliens. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. À partir de l'instant où le problème ne reste qu'entre les Maliens, c'est d'amener les Maliens à l'issue d'un accord, de se mettre d'accord sur la manière dont ils vont gérer leur pays. Et non pas d'aider une partie du pays pour aider une autre partie du pays. C'est comme ça que je comprends l'attitude de Serval par rapport à Kidal.
D'accord.
Avant, c'était des groupes djihadistes, c'était des narcotrafiquants qui étaient regroupés, qui voulaient envoyer le Mali, c'était des islamistes. Mais je ne considérais pas le MLA comme étant islamiste ni comme narcotrafiquant pour le moment.
Nous allons définir tout ceci au cours de ce débat. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou 98 MHz. Issaber de Niafunké 96.3 MHz.
Vous êtes connecté à votre radio préférée où que vous soyez au Mali et nous parlons de l'opération Barkhane qui remplace Serval. Quel contenu pour l'accord de défense que le Mali s'apprête à signer avec la France? Cette deuxième partie du Grand Dialogue est dédiée au mandat de la nouvelle opération Barkhane. Nos invités, Ousmane Cornio, spécialiste des questions sécuritaires, professeur Rokia Sanogo du mouvement MP22, au téléphone André Bourgeot, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique CNRS de France et spécialiste du Mali. Alors, le mandat de la nouvelle opération française Barkhane, pour l'heure, on ne connaît pas la durée que va prendre cette opération Barkhane, mais son champ opérationnel s'étend sur toute la bande sahélo-saharienne, à savoir Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Comment Barkhane va devoir coordonner ses actions avec ces pays, André Bourgeot?
Alors, les conditions de la coordination, là, je crois qu'il faut souligner le fait qu'il y a eu un transfert des centres de décision, puisque maintenant, le centre de décision serait transféré au Tchad. Alors, je crois que c'est important quand même qu'il y ait ce transfert au Tchad. Parce que ça veut dire que le Tchad, d'abord, on est en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, ça veut dire que c'est à partir du Tchad que les décisions seront prises, parce que probablement, on craint aussi, enfin, les décideurs politiques français craignent probablement une extension des mouvements djihadistes sur les pays du Sud, mais aussi sur l'Afrique centrale. On voit la situation actuellement en République centrafricaine qui est loin d'être brillante. Mais je voudrais revenir quand même aussi sur cette réorganisation. Je crois qu'il faut souligner la chose suivante, c'est que Serval, comme vous le savez, c'est un petit félin aux oreilles pointues dont la caractéristique est d'uriner 30 fois par jour pour marquer son territoire. Donc Serval, cette fois-ci opération française, a marqué son territoire pendant 18 mois. Ensuite, on passe à l'opération Barkhane. Barkhane, ça aussi, c'est significatif puisque c'est une petite dune en forme de croissant qui est dans le sens du vent. Et cette dune-là, on peut aussi la comparer à une sorte de muraille, voire de muret, puisque les militaires français vont intervenir, comme vous l'avez dit, en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Alors c'est probablement pour éviter l'avancée des troupes, des groupes armés djihadistes ou narco-djihadistes sur le sud. La question que je me pose, mais c'est une hypothèse, est-ce que ça ne vise pas aussi à protéger les pays côtiers qui seraient susceptibles d'être contaminés par ces forces djihadistes?
Également l'Europe.
Pardon ?
Également l'Europe.
Et également l'Europe. Ça veut dire que le Sahara, qui était considéré comme étant un entre-deux, et que par la suite, la notion d'entre-deux n'avait pas de pertinence compte tenu des trafics illicites de cocaïne, de cannabis, de fraudes multiples, ça était devenu un carrefour. C'était au moins plusieurs carrefours. Maintenant, avec cette réorganisation du politique, on revient à cette notion d'entre-deux, à fondement militaire, et qui renvoie à des formes de militarisation de l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, donc un mur de protection pour le Maghreb, mais pas essentiellement le Maghreb, l'Europe et aussi les pays côtiers. C'est un peu comme ça que j'interprète peut-être à tort, mais en tout cas c'est une hypothèse qui n'est pas du tout à écarter. Ce qui voudrait dire qu'en définitive, le bilan qui a été tiré par-delà les propos officiels consiste à dire qu'en définitive, les résultats de Serval sont quand même assez mitigés. Serval était là aussi, l'AMINUSMA aussi était là pour permettre la restauration de l'unité territoriale et de restaurer la territorialité malienne. Si on prend l'exemple de Kidal, je reviens à Kidal parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement gênant, tout la barre des Iforas, donc Kidal, Tessalit, etc., n'est pas sous la gouvernance du Mali. J'en veux pour preuve que lorsque son excellence le Premier ministre a rendu à Kidal le gouverneur de l'époque, dont j'ai oublié le nom, c'était complètement caillassé, qu'il y a eu des fonctionnaires de l'État malien qui se sont fait tuer. Quel est l'État qui accepterait que ces fonctionnaires se fassent tuer? Donc on voit bien que toute cette partie-là est en dehors de l'autorité et de la souveraineté de l'État. Donc il n'y a pas un retour à l'intégrité territoriale, d'autant que une certaine tendance à l'intérieur du MNLA insiste sur le fait qu'il faut absolument accorder un statut particulier. Je crois même qu'il ne faut pas référence à cette notion de statut particulier, il faut référence, ça dépend des circonstances, à l'indépendance et à l'autonomie, avec des ambiguïtés quand même importantes, parce qu'on ne sait pas s'ils revendiquent l'autonomie pour la région de Kidal ou sur l'ensemble de ce qu'ils appellent l'Azawad, qui est une construction politique qui n'a aucun fondement historique. L'Azawad, c'est des régions
D'accord.
composées.
Merci.
On aura de Tombouctou, Gao et Kidal. Mm. Donc, c'est quand même un peu inquiétant, d'autant qu'il va y avoir des négociations qui vont se faire, je crois, après-demain, le 16 juillet, dans un contexte où il y a une réactivation d'affrontements armés dans le septentrion malien.
Merci beaucoup, André Bourgeot. Vous restez avec nous. Rukia Sanogo, vous êtes du mouvement MP22. Que pensez-vous de la coordination qu'il va y avoir entre l'opération Barkhane et les différents pays que nous avons cités tout à l'heure, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad?
Voilà, bon, et merci pour cette question. Je crois que l'intervenant, le professeur chercheur, et tout ce qu'il dit me réconforte, parce que là, il y a une analyse critique. Il dit un bilan mitigé, il dit des complicités, il dit qu'aujourd'hui, l'objectif de la récupération de l'intégrité du Mali n'est pas là. Et voilà. C'est ce qui nous réconforte à ce que nous avons dit. Et quand il y a Kidal, nous avons dit, nous regrettons d'avoir eu raison. Parce qu'on aurait aimé que le jour que la France est venue et que la France est allée à Kidal sans le Mali, ce jour-là, tous les Maliens devaient se mobiliser pour dire non. Si vous êtes venus pour nous sauver, c'est de nous sauver en entier. Et malheureusement, ce que Bourgeot vient de dire, c'est ça la triste réalité, c'est ça le résultat de Serval, c'est ça le résultat de l'aménagement. Parce que je ne peux pas comprendre comment, quelle motivation peut amener une opération qui s'est fait nommer opération salvatrice, une aménagement qui est au service des Nations Unies, puissent s'arrêter et regarder que des fonctionnaires maliens ont été assassinés et que le 21 mai également, on a eu des complicités qui ont permis de tuer des milliers de soldats, des centaines de soldats.
Position, okay, la position
donc la position
France
maintenant
était un peu délicate lors de la libération. La position de la France était un peu délicate. Les otages français étaient détenus au nord.
Oui,
ne
donc,
fallait-il pas faire attention?
Oui, moi j'ai dit. Il faut être clair. La France devait être claire. La France avait besoin de faire revenir MNLA pour sauver ses otages, comme on a vu par la suite. Il ne faut pas se cacher derrière le fait que le professeur Djongunda avait donné une autorisation. Le professeur Djongunda a demandé un appui aérien. Il n'a pas demandé de troupes au sol. Donc il faut qu'on le répète et qu'on nous donne, mettre à disposition ces documents. Donc, moi, je crois que, voilà, maintenant qu'il y a la coordination, moi, je crois que cette coordination, quelque part, c'était l'objectif initial de la France. Parce que je crois que nous devons nous rappeler que l'opération Serval n'est que l'aboutissement d'un ensemble de choses qui ont commencé depuis Sarkozy, depuis la création des MNLA, 2009. 2010, vous vous rappelez les attaques au Niger. Ensuite, 2011, vous vous rappelez la Libye. Donc, la destruction de la Libye, la conséquence directe, c'était le Sahel exposé. Et le Sahel exposé, le Mali a été le maillon faible du Sahel qui a permis à la France d'arriver. Et aujourd'hui, l'objectif au Mali n'étant pas atteint, il faut trouver le moyen de réorganiser parce que si vous vous rappelez, quand Cheikh Modibo Diarra a été au sommet des Nations Unies en septembre, la rencontre qui a eu lieu en marge du sommet, c'était sur le Sahel. C'est depuis ce moment qu'on était en train d'envisager de réorganiser le déploiement des forces françaises dans le Sahel, parce que c'est l'objectif ancien d'un État saharien qui est là depuis avant les indépendances. Et je crois que la France gendarme du Sahel, il y a un document, et tout ce qui est en train d'être dit aujourd'hui dans cette nouvelle appellation a été discuté entre la France et les États-Unis, parce que ce qu'il faut dire aussi, que la France fait pour soi, mais la France fait pour le reste de la communauté internationale.
Merci Rokia pour ces éclairages. Alors Ousmane Cornio, le nord du Mali est une zone immensément vaste. La MINUSMA déplore le manque de volonté des pays contributeurs de troupes et de logistique. Y a-t-il pas un paradoxe qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette opération Barkhane, la France mettra à disposition 3000 hommes, 20 hélicoptères, 200 véhicules blindés, 10 avions de transport tactique et stratégique, 6 avions de chasse et enfin 3 drones pour le renseignement. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe?
Bon, je ne vois pas de paradoxe parce que je fais la différence entre la France et la MINUSMA. La MINUSMA, c'est sous le mandat des Nations Unies. Et la France, c'est une coopération bilatérale. Et puis, je reviens un peu sur la différence entre cette partie de la Serval et puis Barkhane. Bon, il faut reconnaître qu'en fait, moi, je me posais toujours une question quand même. C'est vrai qu'il y avait un paradoxe. On dit que le Mali va signer un accord avec la France par rapport à l'opération Barkhane. Or, il faut reconnaître qu'en fait, que l'objectif de cette opération Barkhane, ce n'est pas le Mali, c'est toute la sous-région. Pourquoi n'avoir pas signé un accord global avec l'ensemble des pays concernés et qui engagerait chacun des pays en sa manière, dans la coordination, dans la gestion et aussi dans les interventions de ces pays? Qui fait qu'on focalise...
Est-ce que des accords n'existent pas dans ce...
Oui, mais ici, si ces accords existent, non, on n'avait qu'à simplement étendre les accords signés avec les autres pays au Mali. Et non pas se focaliser sur un accord précis, à lui en donner un nom, Barkhane, et dire qu'il va s'exercer aussi sur les autres pays. S'il existait déjà des accords dans ces autres pays-là, pourquoi les renommer? Donc c'était quand même la question que je posais. Mais je dis aussi que... il faut reconnaître que le Mali a eu des soutiens, peut-être des soutiens moraux. Jamais un pays en difficulté, en tout cas en Afrique subsaharienne, n'a eu autant de complicité, autant d'aide. Bon, mais il faut reconnaître aussi qu'il est facile de donner de l'argent, mais il n'est pas facile de donner des armes. Il n'est pas facile aussi d'aller combattre. Et là, c'est là le problème. Et nos pays ils sont tous en mal d'équipement. La France va mener ses équipements pour Barkhane, mais je ne pense pas que dans les accords, il est prévu que la France fasse partie de l'aménagement et donne ses avions pour Barkhane. Il revient à la communauté internationale des Nations Unies, qui a aussi autant de moyens, sinon plus de moyens que la France, de fournir autant d'armes, autant de munitions, autant d'équipements qu'il est nécessaire pour défendre le Mali. Parce que l'aménagement, c'est pour le Mali. Alors que Barkhane, c'est pour toute la sous-région. C'est pour ça que les équipements de Barkhane ne peuvent être mis, sous la tutelle de l'aménagement. C'est comme ça que je comprends.
D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec ce débat.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci d'être d'un autre. Nous parlons dans ce grand dialogue du jour de l'opération Barkhane qui remplace Serval. Quel contenu pour l'accord de défense Mali-France qui va y avoir lieu? Nous avons comme invité Ousmane Cornio, expert des questions sécuritaires, professeur Rokia Sanogo du parti Sadi, mais qui répond au nom du mouvement MP22. Au téléphone, André Bourgeau, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique, CNRS de France, et également spécialiste du Mali. Ce deuxième volet sera consacré à la place et au rôle du Mali dans cette réorganisation militaire de la France. Mais avant d'arriver à ce troisième volet, nous poursuivons avec le second volet, le mandat de la nouvelle opération Barkhane. Et André Bourgeau est en ligne de Paris avec nous. André, vous avez entendu les propos des uns et des autres tout à l'heure. La guerre coûte cher. Le gouvernement français a le soutien de son Parlement. Comment la France rentabilisera cet investissement qui est fait au Mali?
Dans l'immédiat, il est difficile de dire comment il va rentabiliser, mais on ne connaît pas, encore une fois, d'intervention gratuite. Il y a toujours des intérêts derrière. Alors, quels sont-ils ? Je pense quand même que le Mali occupe une position géostratégique d'une part, et d'autre part qu'il y a des ressources extractives qui sont intéressantes et prometteuses plus particulièrement pour celles qu'il y a dans le septentrion malien avec le gaz, avec le pétrole. Il y a un site aussi d'uranium dans l'espace qui s'appelle Kamesnia, qui est sur le territoire malien et qui est dans le même filon que celui d'Imouraron au Niger. Donc il y a un ensemble de choses qui fait en sorte que ça ne peut que susciter des intérêts. Le problème suivant, c'est que pour ma part, je ne connais pas exactement le contenu de l'opération Barkhane. On sait qu'elle se met en place pour lutter contre le terrorisme. J'observe que déjà dans les années 2003, 2004, 2005 et ensuite en 2006, la stratégie américaine était de former les militaires de l'Afrique de l'Ouest à la lutte contre le terrorisme. C'est la même appellation qui est réutilisée par le pouvoir politique français, mais qui ne concerne pas le même espace que ceux du temps Sahel initiative de 2003 et qui s'est transformé par la suite en TSTCP, le Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership, qui englobait beaucoup plus de pays. Cette fois-ci, l'opération Barkhane concerne 4 ou 5 pays parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile et c'est aussi dans ces pays-là où il y a des menaces djihadistes importantes. Quelles sont les relations, le contenu, à quoi renvoie-t-il vis-à-vis du Mali et vis-à-vis des autorités maliennes? Je n'en ai aucune idée. On parle beaucoup de l'accord de défense, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est très difficile de se prononcer sur l'accord de défense. Théoriquement, dans un pays démocratique, et le Mali est considéré comme pays démocratique, puisqu'il y a eu des élections présidentielles aux dates voulues. Je crois me rappeler que le président de la République française, M. François Hollande, avait dit qu'il serait intraitable pour la tenue des élections présidentielles. C'est ce qui s'est passé, elles ont eu lieu, donc c'est démocratique. Il y a eu des élections législatives qui se sont tenues, donc il y a des représentants du peuple. Il me paraît très normal qu'au nom de la démocratie, il y ait eu des débats au sein de l'Assemblée nationale sur cet accord de défense, d'autant que je crois me souvenir, je parle un peu sous votre autorité, qu'il y a une commission de défense au sein de l'Assemblée nationale, oui. qui est d'ailleurs présidée, je crois, par le fils du président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, est-ce qu'il y a eu débat au sein de cette commission à propos de l'accord de défense? À ma connaissance, non, en tout cas, s'il y en a eu, ça se saurait. Alors, cet accord de défense, on a l'impression qu'il s'est fait un petit peu dans une discrétion qui là aussi génère de la suspicion.
Alors, si l'on considère que la mission Serval, nous sommes donc dans la troisième partie du débat, si l'on considère que la mission Serval qui a évolué sous la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies est terminée, Barkhane a-t-elle un cadre juridique aujourd'hui sans cet accord de défense? Toujours avec vous, André Bourgeot.
Alors, j'observe aussi, mais vous savez, il y a une telle confusion, une absence de circulation de l'information, donc on ne connaît pas grand-chose sur le contenu. La question que j'aurais tendance à poser, mais c'est vous qui me posez une question, mais je ne vous réponds pas, quel type de relation va-t-il exister entre ce qui s'est passé il y a quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, avec la création du G5? Et puis, quel type de relation le G5 va entretenir avec la réorganisation militaire présentée comme l'opération Barkhane? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une question que l'on peut se poser. On a l'impression qu'il y a des distributions des tâches qui sont jamais très, très bien définies. Ça entretient une confusion. Et la confusion aussi, elle est gênante parce qu'il nous est difficile de faire des analyses politiques quand on n'a pas de données bien concrètes, transparentes, discutées, etc. Et donc ça fait le jeu de tout un tas de relations qui, encore une fois, interpellent et puis disent « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le renforcement des institutions maliennes ne fonctionne pas ?» Parce que, encore une fois, l'Assemblée nationale, il y a eu des élections, il y a eu des représentants du peuple. Pareil pour les conditions de négociation sur le après-demain avec les groupes armés. Pourquoi les représentants du peuple, les députés, ne siègent pas à ces négociations? Donc, vous voyez, ça affaiblit considérablement les conditions de la négociation dans un contexte politique nouveau militaire qui est déjà beaucoup plus favorable aux groupes armés tels que le MNLA, le HCUA et puis le MA. Quid des autres, ces gens-là ne représentent pas l'ensemble des populations du septentrion malien. Loin s'en faut, je dis bien, loin s'en faut. Donc comment créer les conditions de négociation inclusive, dit-on, sans les réduire simplement aux groupes armés. Mmh. C'est conférer un pouvoir extrêmement important à ces groupes armés, et c'est un peu s'asseoir sur les institutions issues de pratiques démocratiques.
D'accord. Alors, la place et le rôle du Mali dans cette réorganisation, Ousmane Kornio, est-ce que vous pensez que le remplacement de l'opération Serval par Barkhane ne conclut-il pas de facto le futur accord de défense entre le Mali, et quel sera le rôle du Mali, de l'armée malienne dans cette réorganisation de l'armée française?
Oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un paradoxe, la signature de cet accord avec le Mali, alors qu'il y a le G5. Aussi, quand on voit le mandat, bon, on n'a pas lu parce qu'on n'a pas eu accès aux informations, mais ce qu'on aurait appris, c'est que le champ d'intervention de Barkhane ne se limiterait pas seulement au Mali, mais aux autres pays, donc au G5. Donc ça veut dire que le Mali est un élément, est un élément comme tout autre pays et qui a sa place. Mais maintenant, quant à la situation, au positionnement, on n'est jamais mieux servi que quand on est servi chez soi. Et s'ils sont installés chez nous, ça veut dire que nous serons les meilleurs bénéficiaires. Ça ne veut pas dire forcément que nous sommes le ventre mou. Mais quand vous regardez le positionnement géographique du Mali, du Sahara, du Mali, par rapport à la... Nous sommes au cœur. Nous sommes au cœur du Sahara. Et nous sommes au cœur du Sahara qui fait qu'il n'y a pas meilleur positionnement pour avoir une observation, une surveillance de l'ensemble du Sahara que le positionnement au Mali. Et je crois que c'est pour ça que le Mali a été choisi.
La signature de cet accord est prévue pour le 16 juillet, qui correspond également à une date importante pour le Mali, car étant la date retenue pour la relance des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés, les dates retenues pour ce genre d'événement sont-elles si importantes, Rukia Sanogo, du mouvement MP22?
Voilà, bon, merci. Mais il y a eu des questions, on ne m'a pas demandé. Je ne sais pas le pourquoi. Bon, je sais pas si
vous
je
souhaitez
suis...
réagir, il n'y a
si,
pas de problème.
Si je suis là juste pour écouter les autres, ça, ce n'est pas intéressant.
Si vous souhaitez réagir, il
voilà,
n'y a pas
bon,
de problème.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire la question de l'aménagement, la triste réalité de l'aménagement, c'est qu'avant l'intervention française, l'opération Serval, il y avait la résolution 2085 qui avait un plan de récupération du nord du Mali qui a été foulé au pied, qui a été contourné par la France pour les raisons que nous savons. Et aujourd'hui, cette nouvelle réorganisation qui est là, c'est une nouvelle organisation, j'ai dit, c'est pour noyer, c'est pour cacher l'échec de Serval. Et la question de l'accord de défense aujourd'hui, selon les informations que nos autorités nous donnent, il n'y aura pas d'accord de défense. Et nous saluons cette information et nous voulons que nous nous mobilisions tous pour qu'il n'y ait pas d'accord de défense avec la France. Et ce que les autorités disent aujourd'hui, c'est dire que l'accord de coopération culturelle, coopération militaire et technique sera révisé pour au moins intégrer la présence des militaires français qui sont venus en son temps dans l'illégitimité parce que il n'y a pas de document juridique à Serval. Et ce qu'il y a aujourd'hui, le gouvernement, l'aménagement s'est servi de Serval, et donc aujourd'hui les autorités ont besoin de réviser cet accord de coopération pour que on puisse légitimer la présence de Serval.
Okay, quand vous dites qu'il n'y a pas de document justifiant la présence française au Mali, et que faites-vous de cet appel du président Diankounda Traoré?
Non, c'est pas un document juridique. Si c'était un document juridique, on ne devait pas avoir besoin, la France a dû avoir besoin à la résolution des Nations Unies après pour faire venir l'aménagement pour couvrir Serval. Donc rappelons-nous de ça. Il faut qu'on informe, il faut que nous soyons, on analyse les choses. S'il y avait un papier officiel, il n'y a pas de raison qu'on signe encore un accord. Donc, je crois qu'il ne faut pas vraiment qu'on soit comme si on est anti pour anti. nous analysons les choses et nous essayons qu'on ait les informations, qu'on ait des logiques qu'on essaie de voir. Tout de suite, même Corneille a dit, c'est un paradoxe quand même, parce que aujourd'hui on veut un accord avec le Mali et on dit le Mali va être dans un ensemble. Donc quand même, il y a des choses. Et Bourgeot aussi a dit qu'il y a assez de confusion, il n'y a pas de transparence, on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit qu'on ne connaît pas. Donc là, moi, je crois qu'il faut qu'on cherche les informations et qu'on informe. Et nous saluons cette idée qu'il n'y aura pas d'accord de défense. Par rapport à l'armée, nous, aujourd'hui, nous disons, j'ai eu l'habitude de dire aux autorités, dans des circonstances, que nous n'avons pas besoin de la France, mais qu'on a besoin de moyens pour rééquiper notre armée. Ça a été notre position. On a dit, on n'a pas dit non à l'aide pour rééquiper l'armée, renforcer l'armée, mais on a dit non à la présence de troupes étrangères. Parce que quand il y a des troupes étrangères, ils vont donner les moyens à leurs troupes pour se substituer à nos troupes. Et puis, ils vont faire pour leurs intérêts. Bourgeot l'a dit, c'est l'intérêt géostratégique, la position du Mali. Corneillon l'a dit. C'est l'intérêt des ressources. Parce qu'aujourd'hui, les MNLA, les séparatistes, qui sont des ennemis du Mali pour moi, c'est des Maliens qui ont pris les armes, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. C'est des Maliens, c'est des gens qui ont dit qu'ils ne se reconnaissent plus au Mali. Donc je ne vais pas les traiter au même titre que les autres Maliens qui se reconnaissent au Mali. Et aujourd'hui, ils veulent faire un état de l'Azawad qui peut décider des ressources de la région pour qu'il faut des traités internationaux pour exploiter ces ressources.
Est-ce que cela
la France est intéressée par ça, et aussi il y a la question historique. La question historique, c'est que le nord du Mali, la France en son temps, a été chassée par le président Modibo. Et la France, quel que soit le gouvernement, la France n'oublie pas. Parce que alors, c'est ça aussi.
Rokia, nous allons conclure ce débat avec vous. Les hommes ne m'en voudront pas. Vous êtes la seule femme dans ce débat. juste sur cette question, est-ce que cette question de Kidal aujourd'hui ne pose pas le problème de la mauvaise gouvernance dans nos pays africains, principalement au Mali?
Oui, bon, la question de la mauvaise gouvernance, je crois que nous, quand on a eu à saluer le 22 mars, l'avènement du 22 mars, nous avons dit que c'était inadmissible que 20 ans de démocratie aboutissent à une crise de ce genre. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'il faut avoir le courage de l'affronter.
Merci beaucoup. C'est fait. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Un débat qui portait sur le remplacement de l'opération Serval par l'opération Barkhane au Mali. Nom donné à une dune de sable en forme de croissant formée dans le nord. Voilà, sur le sable. Les axes débattus dans ce débat, le bilan de l'opération Serval, le mandat de la nouvelle opération Barkhane, la place et le rôle du Mali dans cette réorganisation. Nos invités, Ousmane Corneau, expert des questions sécuritaires, professeur Rokia Sanogo du mouvement MP22, et un grand merci au téléphone, André Bourgeot qui était au téléphone depuis Paris, directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique CNRS de Paris. Nous espérons l'avoir encore davantage dans nos prochaines éditions. Merci Ousmane Corneau, expert des questions sécuritaires. Merci à vous madame Rokia Sanogo du mouvement MP22. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Salim Diouara était à la technique et nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.